Bonsoir. Ce soir, je suis ravi de vous présenter un livre absolument extraordinaire et qui, à mon avis, constitue un événement à un double titre. D'abord, au titre de l'œuvre, en l'occurrence celle de Charlotte Salomon, qu'il nous donne à connaître, à parcourir, à contempler. Et ensuite, au titre de la prouesse éditoriale. Je trouve que présenter au public un tel livre, avec un tel nombre d'œuvres, alors je ne sais pas combien il y en a exactement, mais peut-être un millier.
En termes de reproduction, c'est-à-dire si on associe les gouaches elles-mêmes et les calques, on est à 1300 reproductions.
Voilà. Et donc, nous avons ici affaire à un objet qui est absolument extraordinaire et qui est passionnant, d'ailleurs, tant à regarder et à lire qu'à lire. Mais même, il faudrait y ajouter encore une autre dimension, qui est la dimension de la musique. Parce qu'il y a assez souvent des notations musicales empruntées à divers musiciens, à Bach très souvent, mais aussi à Bizet ou à d'autres musiciens. Et donc, et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, si Charlotte Salomon a donné comme sous-titre à son œuvre, qu'elle a intitulée « Vie ou théâtre », le sous-titre en est Ein Singspiel. Ce qui est le sous-titre, enfin qui est le genre de la flûte enchantée de Mozart, rien moins que ça. Hein. Mm. Bon, et qui a quelque chose d'un peu comique, hein, et qui est chanté.
C'est ça. La traduction littérale de Singspiel est un peu délicate. On a choisi celui d'opérette,
oui,
pour pas créer un écran entre l'œuvre et son lecteur. Peut-être que si on avait voulu être encore plus précis, on aurait pu parler d'opéra bouffe, effectivement.
Voilà, voilà.
Parce qu'il y a une dimension farce très forte dans l'œuvre, et dès les premières pages d'ailleurs, puisque passer la page de titre, donc je parle de pages, mais ce sont des gouaches. Hein. On est bien d'accord, le Vie ou théâtre est un ensemble de gouaches qui forment œuvre et livre, puisqu'elle-même a numéroté certaines de ces gouaches, donc elles sont faites pour être appréhendées successivement. Et donc la première gouache est une page de titre, véritablement. La deuxième gouache est la dédicace. Elle dédie cette œuvre à sa protectrice pendant la guerre. Et la troisième est la distribution de tous les personnages de son roman ou de son œuvre.
Voilà, comme dans un opéra bouffe, comme dans un opéra, comme dans une œuvre chantée. Voilà, donc, c'est un double événement, à mes yeux, et véritablement passionnant, d'une richesse presque infinie. D'abord, il faut commencer par souligner la beauté de ses œuvres, hein, par la beauté de ses œuvres, qu'il est d'ailleurs difficile de situer et de relier à des mouvements picturaux. Est-ce qu'on pourrait rapprocher ça de l'expressionnisme ? C'est difficile à dire, d'autant plus que très souvent, dans ces gouaches, il y a beaucoup d'écriture même. Hein, c'est-à-dire que ce qui est écrit avec le pinceau, hein, très souvent. Autrement dit, les œuvres sont à la fois à regarder et à lire.
On reviendra sans doute, hein, sur les conditions de la création, mais juste pour revenir sur la richesse de l'œuvre et ses influences, il faut savoir qu'elle a été la dernière étudiante juive des Beaux-Arts de Berlin en 1938, et qu'une des explications de la magie de cette œuvre est qu'effectivement, on a quelqu'un qui est encore à peine sorti de l'école quand elle commence cette œuvre, et ça bouillonne dans sa tête. Donc il y a l'expressionnisme allemand, il y a des hommages à... On peut sentir du Chagall, on a des tournesols qui font quand même très fortement penser à qui vous savez. Et on ne peut que deviner en même temps ce qui s'est passé dans sa tête, puisque elle-même ayant été déportée en 1943 à Auschwitz, elle n'a pas laissé d'autres testaments philosophiques que les textes qui font partie de l'œuvre. Voilà. Donc on peut faire des suppositions, mais on sent quand même très fortement, encore une fois, que placée sous la pression des événements, et ils étaient nombreux en fait, il n'y avait pas que la guerre et le fait qu'elle soit juive, elle a fait ressortir par les moyens du bord, parce que tout simplement, elle était dans une position de solitude extrême, elle était exilée en France. Les liens avec l'Allemagne étaient bien sûr rompus, et elle avait pour seul interlocuteur un grand-père, plus ou moins sénile, en tout cas nettement acariâtre, qui voulait sa mort. Donc c'est quand même un contexte, on va dire, intime assez particulier. Et donc tout ressort à ce moment-là, parce qu'effectivement, elle n'a pas d'autre interlocuteur que sa propre mémoire.
Et sa peinture, et son pinceau. Et son pinceau. Alors, elle a quitté l'Allemagne à la fin de 1938, envoyée par son père et la seconde épouse de son père dans la région de Nice, auprès de ses grands-parents maternels qui vivaient là. Dans un premier temps, c'est une façon pour elle de survivre, et pour eux tous d'ailleurs, de survivre. En mai 1940, lors de l'invasion de la Belgique et de la France par les armées allemandes, les ressortissants des puissances ennemies sont internés. Et c'est ainsi que elle et son grand-père, je ne sais pas si sa grand-mère en fait partie.
Non, elle était déjà morte.
Elle était déjà morte, d'accord. Elle était morte avant 40
Mars 40.
Mars 40, d'accord. Donc, elle et son grand-père se retrouvent internés au camp de Gurs. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de monde au camp de Gurs. Il y a Hannah Arendt, il y a la sœur de Walter Benjamin, bien. Et pour ce qui me concerne, j'ai aussi les parents qui ont été internés au camp de Gurs, mais qui n'étaient pas des ressortissants allemands, et pas à ce moment-là. Bien, donc tout ça me touche aussi personnellement d'une manière très intime. Cela dit, Charlotte ne parle pas beaucoup, n'évoque pas beaucoup, un tout petit peu malgré tout, ce moment de Gurs. Elle parle des Pyrénées. Elle parle de...
Je ne les ai pas comptés, mais sur l'ensemble des presque 800 gouaches que forme le roman, il y a tout au plus une dizaine de gouaches.
C'est ça.
Qui correspondent à cet épisode.
C'est ça. Alors, il y a un autre élément dont nous n'avons pas encore parlé, qui est très très important, et qui est d'ailleurs lié à sa façon de concevoir son art lui-même comme une sorte d'antidestin. Elle va l'apprendre d'ailleurs, elle va l'apprendre par son grand-père, c'est une sorte de pesanteur qui est présente au-dessus de la branche de la branche maternelle de sa famille. Elle va apprendre que quasiment toutes les femmes de la branche maternelle, sa mère, sa tante, et d'autres d'ailleurs, et aussi quelques oncles ou grands-oncles, se sont suicidés. Et donc, il y a cette pesanteur du suicide qui est aussi présente sur elle, du moins à ce moment-là, je pense, parce que quand elle se met à peindre ses gouaches, son grand-père a dû lui révéler ce fait qu'elle ignorait jusqu'alors. Et il me semble que sa peinture est une sorte d'antidestin, justement, et qui manifeste un certain amour de la vie et de l'art, et qui apparaît aussi dans cette œuvre à travers certains personnages d'artistes.
C'est très curieux, en fait, le destin de Charlotte Salomon, parce que c'était pas une étudiante flamboyante, par exemple. Très honnêtement, les œuvres qui préexistent à Vie ou Théâtre ne sont pas exceptionnelles. Ce sont des travaux d'étudiants, en fait, qui cherchent. Humainement, jusqu'au moment où elle se lance dans Vie ou Théâtre, elle n'a pas laissé un souvenir extraordinaire non plus. Donc, il y a une universitaire américaine, notamment, qui a travaillé 15 ans sur Charlotte Salomon, qui est allée retrouver des témoins un peu partout dans le monde, jusqu'en Australie, en Angleterre, des camarades d'école. Et ce qui ressort des témoignages, c'est oui, Charlotte Salomon, mais elle ne parlait pas, en gros. Et picturalement, ce n'était pas non plus le génie mutique, c'était simplement une étudiante un peu besogneuse. Et c'est ça qui est très, très beau dans Vie ou Théâtre, c'est de voir à quel point cette œuvre est née de quelque chose qui aurait dû la détruire. Et en fait, Vie ou théâtre est la réponse à, au minimum, un double destin de mort qui lui était réservé, puisque, donc, on ne revient pas sur le contexte historique, mais elle quitte quand même l'Allemagne juste après la Nuit de Cristal. Et en termes artistiques, il ne faut pas oublier en plus qu'il y a toute cette propagande allemande sur l'art dégénéré, qui était au contraire ce qu'elle avait de plus intime. Donc il y a cette pression historique qui tombe sur elle. Et pour revenir sur le destin familial, c'est quasiment un systématisme. C'est-à-dire que quand son grand-père lui annonce au moment où sa propre grand-mère vient de se suicider, elle s'est défenestrée sous ses yeux, donc en mars 40, la vérité est qu'elle est la dernière survivante de toute la lignée maternelle. Donc absolument tout le monde dans la lignée maternelle s'est suicidé depuis 3 générations. Donc elle découvre que sa mère, qu'elle croyait être morte de la grippe quand elle-même avait 8 ans, s'était aussi défenestrée. Elle découvre qu'elle s'appelle Charlotte parce qu'une tante, 4 ans avant sa naissance, s'était jetée dans un fleuve. C'était la sœur de sa mère. L'arrière-grand-mère s'était laissée mourir de faim. Il y avait effectivement donc des oncles suicidés également. Bref, un carnage. Et le grand-père, qui avait quand même un certain sens de l'humour, quand il lui fait cette révélation, et ça va être une des toutes dernières gouaches de Vie ou théâtre, lui dit, qu'est-ce que tu attends, t'es la dernière, qu'on en finisse avec ces fadaises. Et c'est là où c'est magnifique. C'est que cette fille qui avait finalement un destin plutôt anodin, qui passait pour la pauvre petite chose qui avait perdu sa mère à l'âge de 8 ans, à qui on avait caché la vérité du drame, qui était assez timide, sa belle-mère, donc la seconde épouse de son père, était une grande chanteuse d'opéra, qui avait une activité mondaine très importante, une sorte de Madame Verdurin qui invitait très souvent chez elle, donc il y avait beaucoup de gens qui passaient, et elle ne parlait jamais. Tout d'un coup, confrontée à cette double promesse de mort qui lui est révélée, entre les nazis qui lui courent un peu aux fesses, et la tradition familiale que son grand-père lui demande de respecter, va par une énergie folle, qui est liée sans doute à un des personnages principaux de ce roman, et qui est aussi un des hommes principaux de sa vie, son amant, qui était le professeur de chant de sa belle-mère, décider de répondre à tout ça par cette entreprise artistique qui n'a quand même, à mon avis, aucun équivalent. C'est-à-dire que réaliser près de 1300 gouaches, il y en a 800 dans le roman, mais elle en a fait presque tout autant qu'elle a refusé, qu'elle a recommencé parce qu'elle n'en était pas satisfaite, ou qu'elle a mis de côté parce qu'elle trouvait que dans la narration, ça n'était plus nécessaire. Peindre 1300 gouaches et rédiger un texte, alors en édition, on compte en nombre de signes, elle a fait environ 200 000 signes, ce qui fait un petit roman ou deux romans des éditions de Minuit à peu près. Voilà. Ça veut dire quand même une masse textuelle importante. Orchestrer tout ça en 16 mois, qui est à peu près le temps qu'il lui a fallu pour faire Vie ou théâtre, tout en inventant des formes artistiques complètement novatrice pour l'époque, et c'est d'ailleurs une des raisons sans doute qui font qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour qu'on ait la première édition intégrale au monde de la chose, c'est que pour l'époque c'était tout simplement inaudible. On parle de roman graphique aujourd'hui, mais ce mot-là n'existait pas en 42. Et les premières éditions partielles qui reproduisaient des gouaches mettaient beaucoup de côté le texte, d'une part, et parlaient d'un journal en images, par sans doute effet de contamination avec le journal d'Anne Frank, qui par une curieuse coïncidence a été découvert à peu près au même moment, en 1947, et le père de Charlotte Salomon était très proche du père d'Anne Frank, puisque tous les deux vivaient à Amsterdam. Voilà. Ça reste inexplicable pour moi, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut voir l'arc électrique qui se crée dans les conditions d'existence de cette femme, l'énergie qu'elle a trouvée pour en sortir par le haut et ne pas s'effondrer psychologiquement, parce qu'elle-même avait une propension à la mélancolie, donc elle pouvait avoir des pensées morbides, c'est très clair. Comment elle s'est subitement métamorphosée pour devenir cette grande artiste, ça demeurera jamais un mystère, puisqu'elle n'a jamais pu en témoigner.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces gouaches elles-mêmes sont d'une énorme richesse. Elles sont foisonnantes, pour beaucoup en tout cas. Et regardez souvent certaines d'entre elles, ça prend beaucoup de temps parce que il y a tout un tas de détails, c'est une immense richesse. Donc il y a une sorte d'énergie qui passe aussi dans la couleur aussi. C'est un élément important de ce travail.
Ah ben, une des choses extraordinaires aussi de la peinture, enfin des peintures, c'est qu'elle n'a utilisé que 3 tubes de couleurs. On sait que tout peintre, en général, a une palette, voilà, des prédispositions pour certains teintes de couleurs, donc il a une vingtaine de tubes. Non, elle a utilisé que 3 tubes, donc elle n'avait même pas de noir, elle avait un rouge, un bleu et un jaune, plus un tube de blanc, et elle est partie comme ça. Ce qui d'ailleurs, techniquement, a été une des difficultés pour la fabrication du livre, c'est qu'il y a une densité, c'est de la gouache, mais c'est quasiment de la pâte quand on voit les originaux, tellement la matière est dense, et en même temps un peu laiteuse, parce qu'il n'y a jamais ce noir qui vient arrêter les traits. Il fallait, en termes de photogravure, c'est-à-dire de fidélité de la reproduction par rapport à l'original, faire un travail qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire... Jusqu'à présent, quand vous regardiez des catalogues d'expositions qui avaient existé, ou voilà, sans faire de délation, regardez l'édition qui a été faite par Gallimard de la version illustrée, enfin, qui reproduit des gouaches de Charlotte Salomon du roman de David Funkinos, vous verrez que ça n'a rien à voir. Parce qu'effectivement, techniquement, ce n'est pas simple du tout à reproduire.
Et est-ce que ce fait de s'en tenir à ces 3 couleurs plus le blanc vient des circonstances de l'époque, c'est-à-dire de la pénurie qui caractérisait la France de Vichy.
Pour répondre à votre question, est-ce que c'était une contrainte due aux circonstances de la guerre ? Probablement pas, parce que d'abord, il n'est pas si difficile de trouver des tubes de couleur, et que par ailleurs, les exigences de la création... Et la cesse dans laquelle s'était plongé Charles Salomon, et sur ce point, je rejoins tout à fait le point de vue de Jacques Abeille, appelait en fait à cette épure, à ce niveau de violence même. C'est-à-dire qu'elle confrontait, on a oublié de le dire, mais vie ou théâtre, ce n'est que le roman d'apprentissage d'une femme. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va décider, confrontée à l'interpellation de son grand-père, tu dois mourir, de retracer toute sa vie, avec l'intelligence de la littérature et non pas du journal. Donc voilà. Très concrètement, elle repart. La première gouache, c'est le suicide de sa tante.
1913.
C'est-à-dire le moment où elle trouve un nom, un prénom. Et la dernière gouache véritablement du récit, c'est son grand-père qui lui lance cette interpellation. Et pour se confronter au plus près de ça, il ne faut pas qu'elle triche, il ne faut pas qu'elle soit dans la manière, il ne faut pas qu'elle soit dans l'enjolivement, il faut qu'elle soit, comme elle le dit elle-même, tous les personnages de son histoire, et qu'elle plonge au plus profond de la nature humaine. Et donc cette espèce de primitivisme retrouvé dans la couleur correspond à un projet presque existentiel plus qu'artistique.
Mais en même temps, les personnages apparaissent à travers des noms de théâtre avec une intention comique, ironique.
Alors ça, c'est intéressant parce que la charge autobiographique semble très forte et très souvent, on considère que la Charlotte qui est dans les peintures, c'est la Charlotte qui peint. Et pourtant, d'emblée, Charlotte Salomon rebaptise tous ces personnages, enfin, on rebaptise tous les gens qu'elle a connus, puisque le roman tourne finalement autour de très peu de personnes. Il y a son père, sa belle-mère, ses grands-parents et son amant, principalement. Voilà. Mais elle éprouve le besoin de tous les rebaptiser. Donc, ses parents deviennent les Grincheux, les Knareux. Les Salomon eux-mêmes deviennent les Cannes, donc qui... obligatoirement fait penser à pouvoir, là, une forme conjuguée du verbe pouvoir en allemand, mais qui aussi évoque le mot piché. Son amant, qui s'appelait Wolfson, le fils du loup, dans la réalité, devient Daberlon, qui veut dire salaire de misère. Et il faut interroger cette translation. Pourquoi s'est-elle amusée à rebaptiser tous ces personnages alors qu'elle semble raconter tout ce qu'elle a vécu elle-même? Moi, j'y vois deux raisons. La première, c'est la dimension farce. Effectivement, vous savez, un peu comme dans certaines blagues où l'accumulation des catastrophes, à un moment, provoque le rire. C'est-à-dire, OK pour le nazisme, OK pour l'exil, OK pour la mort de la grand-mère. Mais alors, si vous me dites que toute la famille y a été aussi, il y a un moment où ça provoque le rire. Et en tout cas, il faut insister sur ce point. Il y a dans Vie ou théâtre un humour dans l'acuité du regard des destins qui est extraordinaire. Et la deuxième raison, elle est, là je dirais presque purement littéraire et très rigoureuse, c'est que pour raconter cette histoire, elle va être appelée à peindre, à faire parler des personnages sur des scènes auxquelles elle n'a pas assisté. Elle va mettre en scène, par exemple, sa belle-mère dans des discussions avec son amant. Elle va remettre en scène, par exemple, tout simplement la mort de sa mère. Donc, il y a une gouache magnifique où on voit sa mère. Et elle sait très bien qu'elle ne les a pas vécues, ces scènes-là. Et elle fait ce pas de côté qui est celui de la littérature et qui, pour moi, est en fait une vérité supérieure. C'est-à-dire que par cet exercice où elle sort d'elle-même pour endosser toutes les existences, pour reprendre sa propre terminologie, elle arrive à un degré de lucidité qui est beaucoup plus fort, à mon sens, que celui de l'observateur pseudo-objectif qui va vous décrire le monde tel qu'il le voit depuis son point de vue, depuis sa tourelle. Et ça ne marche jamais. Voilà. Donc on est très très loin du journal, tout simplement parce qu'elle a une volonté de vérité qui est beaucoup plus globale que ça. Elle ne témoigne pas, elle raconte.
Oui, tout à fait. Et avec justement cette espèce de charge comique hein, qui est insistante, hein, qui est insistante à travers le personnage notamment de sa belle-mère, la cantatrice, et de l'amant. Il y a une grande ironie à l'égard de ces deux personnages en permanence. Hein.
Et en même temps, d'une part, son comique n'enlève rien à la complexité des personnages. C'est-à-dire que vous avez des d'Aberlon, l'amant en est le cas le plus flagrant. Il a des côtés parfois vraiment insupportables, des fois poignants, parce que c'est un homme en plus qui a survécu à la Première Guerre mondiale, qui est un éprouvé, mais qui est aussi un prédateur sexuel. Enfin voilà, c'est un personnage complexe. Et par ailleurs, l'humour de Charlotte Salomon peut apparaître par endroits de manière très subtile, mais en même temps assez sidérant. Moi, je me souviens qu'au cours d'une des multiples lectures, je prête attention, je fais une lecture où je fais plus attention à la musique, puisque effectivement, donc, il faut considérer ce View Théâtre un peu comme un storyboard de cinéma ou le travail d'un metteur en scène qui dispose ses personnages, qui dit voilà, telle scène, tel caractère sera ici, tel caractère sera là, il y aura tel échange, tel dialogue. Donc elle met ses dialogues, elle met ses personnages en place et elle dit sur telle scène, je veux telle musique. Voilà. Et une fois, je fais une lecture comme ça en faisant un peu plus attention à la musique et je m'aperçois, donc c'est comme on est dans un récit chronologique, les toutes premières gouaches, on arrive très vite à la rencontre entre son père et sa mère, évidemment, puisqu'il faut qu'elle naisse à un moment. Et donc, il y a une très belle gouache qui est le mariage de ses parents. Et vous avez une annotation musicale qui dit sur telle scène, donc la mélodie, puisque c'est le terme qu'elle emploie. C'est un très beau lead que j'ai écouté, qui est... je suis très mauvais chanteur, donc je ne vais pas vous le faire, mais c'est un chant très guiré, un chant nuptial, et le texte dit à peu près « Nous t'offrons une tresse virginale et nous te promettons l'allégresse, le bonheur et la joie. » Et vous faites 10 gouaches plus loin, et vous arrivez à la scène de défenestration, qui est absolument bouleversante, où on voit un corps démembré avec une flaque de sang autour du crâne. Enfin, voilà, elle n'est pas du tout dans l'ellipse ou le symbole. Et vous voyez la notation musicale qu'elle met, c'est la même. Et là, vous dites, waouh ! Parce qu'une femme qui... Enfin, une femme, presque encore une gamine, elle a 22 ans quand elle peint ces gouaches-là, qui quelques semaines plus tôt, ou plus, quelques mois, penser que sa mère était morte de la grippe, apprend sa fin tragique et qui est capable de mettre ce niveau d'ironie sur l'existence d'un individu.
Oui, bien sûr, puisqu'au fond, elle passe en revue toute l'histoire de sa famille qui lui était cachée en partie. Hein. Et donc, tous ces personnages sont repassés au regard distancié de cette jeune adulte, mais qui, justement, est sans aucune complaisance sur ces divers personnages de sa famille.
Et par exemple, pour prolonger votre idée, très souvent, on a lu le titre qui est un peu énigmatique quand même, vie point d'interrogation ou théâtre point d'interrogation, comme une dialectique entre la vie qui lui était promise et le choix qu'elle a fait de créer cette œuvre qui est un théâtre, une opérette. Moi, j'ai tendance à renverser, c'est-à-dire que tout ce qu'on lui a présenté comme étant la vie lui semblait tellement farce qu'elle a dit c'est une comédie, c'est un théâtre, et je vais aller vers la vraie vie, et la vraie vie, c'est ce que je vais trouver à travers ce que je vais peindre. Voilà. Mais du coup, c'est un titre assez fabuleux parce que vous voyez, les termes de la dialectique peuvent se renverser complètement selon votre sensibilité.
Oui, oui, et donc cela à travers donc toutes ces images que l'on peut regarder aussi, surtout le public d'aujourd'hui, peut-être comme une espèce d'immense bande dessinée aussi. Hein. Il y a des avec cette espèce de, avec comme une espèce de feuilleton, avec des personnages qui reviennent, qui sont pris dans des situations contradictoires.
Le texte liminaire, donc après les pages de distribution, la page de distribution intervient un premier grand texte entièrement calligraphié. Donc la gouache est un texte où elle dit de manière très émouvante qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait au début. Et donc elle s'excuse parce que comme toutes les annotations musicales correspondent aux musiques qu'elle-même se chantait en même temps qu'elle peignait, les premières gouaches, comme elle ne savait pas ce qu'elle était en train de faire, elle a oublié de noter les musiques. Donc elle s'excuse en disant si les premières gouaches, vous n'avez pas tout le temps la musique, c'est que je ne savais pas qu'il fallait que je les note. Donc elle-même a inventé sa forme au fur et à mesure qu'elle la faisait. Et de fait, aujourd'hui encore, l'œuvre est, dans les moyens qu'elle met en œuvre, d'une modernité assez étonnante. J'ai eu la chance de faire une rencontre sur une émission de radio avec Jean-Marc Rochette, qui est un dessinateur et un peintre contemporain, dessinateur de bande dessinée. C'est celui qui a fait la... Alors avant, c'était la trilogie, il vient de publier un quatrième opus du Transperce-Neige. Voilà. Donc il est très estimé dans le monde de la bande dessinée. Et à un moment donc, de l'émission, il ne peut pas s'empêcher de, presque d'interpeller ses confrères en disant « Les gars, faites attention, Charlotte Salomon, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. » Et venant d'un homme aussi impliqué dans cet art-là, je trouvais que c'était le plus beau compliment qu'on pouvait faire à cette femme. Effectivement, elle était tellement moderne, tellement assoiffée d'atteindre cette vérité que j'évoquais tout à l'heure, et dans une solitude si totale, elle n'avait aucun prof pour dire « oui, là, tu devrais peut-être revoir ça, ou est-ce que là, t'es sûr ?» Personne ne la remettait en question, donc elle est partie en roue libre. Et elle est allée très, très, très loin, effectivement.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette œuvre se déroule dans un laps de temps très court, en définitive.
À peu près 16 mois.
16 mois.
Été 40, et c'est fini fin 42.
Et dans une situation, au début, les Allemands ne sont pas là directement. Il y a des Italiens. C'est au moment surtout du débarquement en Afrique du Nord que Hitler envahit toute la zone libre. Ouais. Et puis ensuite, les Italiens, au moment de où les Américains débarquent un peu plus tard en Sicile, vont renvoyer les Italiens chez eux. Et là, la traque des Juifs va être terrible dans cette région qui avait servi un petit peu de refuge à beaucoup de réfugiés. Et là, d'ailleurs, c'est en septembre 1943 que Charlotte et son compagnon vont être pris, début septembre, il me semble, et très peu de temps, ils vont être gazés tous les deux à Auschwitz. Donc il y a ce sentiment de nasse dans lequel se trouvent tous ces réfugiés sur la Côte d'Azur.
C'est une question délicate parce que l'œuvre est assez étonnante dans son évolution graphique. Les premières gouaches sont extrêmement fouillées, très riches de détails, et ça va vers une forme d'épure. Les toutes dernières, un visage peut être dessiné avec un seul coup de pinceau quasiment. Et certains y ont vu l'urgence du temps et donc de la menace notamment. Personnellement, je ne crois pas. Tout d'abord, la présence nazie dans le roman est assez faible. Elle est née en 1917, donc les premières années, elle est même totalement absente. Et même pour la période donc, des années 30, qui occupe quand même une très grande partie du roman, la principale préoccupation de Charlotte Salomon est plutôt ce qui se joue dans l'ordre de l'intimité familiale et amoureuse, pour, en l'occurrence, que même s'il y a quelques scènes de pogrom qui sont peintes, elles sont vraiment assez marginales dans l'œuvre. Et de la même manière, dans le temps de la création, donc entre 40 et 42, on sent que sa préoccupation principale, ce n'est pas la traque nazie, c'est plutôt le destin qui lui est réservé en termes de suicide. Voilà. Et ça, c'est assez étonnant parce que moi, j'aurais presque, et je le mets vraiment avec tous les bémols nécessaires parce que elle a eu une fin tragique et elle n'a jamais pu témoigner, donc c'est très délicat de se mettre à sa place, mais on a le sentiment qu'elle a atteint un tel degré de liberté à travers cette œuvre que son destin propre, elle s'en moquait un peu. Et il y a des arguments hein, pour avancer une telle énormité. Elle s'est quand même mariée officiellement, à l'été 43. Je veux dire, quand on s'appelle Charlotte Salomon et qu'on épouse un nagleur, on évite d'aller à l'état civil et de faire un méchoui après. Enfin, je crois, quand on est vraiment préoccupé par sa survie.
Vous vous souvenez de la date exacte du mariage?
Non.
Bon, vous l'êtes indiqué dans le livre, il me
Oui,
semble.
je me souviens pas, mais c'est vraiment quelques semaines avant d'être dénoncé et
Oui.
d'être déporté. Et de toute manière, il y a une lettre finale qu'elle adresse à
Voilà.
son amant après avoir achevé donc le corpus même de Vie ou Théâtre, où on sent qu'elle s'est libérée, qu'elle est allée tellement loin en elle-même. Qu'elle éprouve à la fois la liberté de son amour pour cet homme, donc elle lui refait au final, après avoir vu tout ce qu'il lui avait apporté et en même temps toutes les mesquineries qu'il portait en lui, eh ben elle fait un bilan d'elle-même et elle dit je t'aime. Et je t'aimais comme personne ne t'aimera. Enfin, voilà, c'est une lettre d'amour assez bouleversante. C'est une lettre où elle est absolument lucide sur les dangers qu'elle court. Mais ça apparaît au second plan parce que finalement, ce qui l'intéresse plus, c'est de réfléchir à la destinée humaine. Et donc, c'est plutôt une lettre qui réfléchit sur le destin des civilisations, sur les barbaries sans cesse renouvelées. Et enfin, c'est une lettre où elle révèle qu'elle a assassiné son grand-père. Elle l'a empoisonné avec, comme elle dit, l'omelette au Véronal. Voilà. Une femme qui en est à ce niveau-là, bien sûr qu'elle sait qu'elle risque sa vie, mais elle est déjà tellement grande que. Je peux pas du tout l'apercevoir, et c'est, je pense, voilà, David Von Kinhoz, c'est quelqu'un avec qui on a souvent parlé, pour qui j'ai une certaine sympathie. Il est très amoureux de Charlotte Salomon, au sens le plus fort du terme, mais je ne peux pas la voir comme une victime. Pour moi, c'est la vraie louve, la fille du loup, c'était elle. Et d'ailleurs, c'est la seule entorse que j'ai. Je me suis autorisé à faire au principe éditorial qui a guidé tout le livre, qui était de dire on respecte non seulement l'œuvre, mais on lui fait tellement confiance qu'on va dépouiller l'édition de tout appareil critique ou de tout verbiage introductif pour dire voilà, c'était une femme qui a fait ça, qui a fait ça, et puis un critique d'art qui va expliquer pourquoi c'est important. Il n'y a rien, il y a juste une page de texte et je l'ai retravaillé peut-être 30 fois pour à chaque fois essayer de gagner une ligne et réduire encore le texte. Voilà, donc tout ce qui pouvait ramener l'œuvre à son statut de roman graphique et non pas de document a été fait à une exception près. C'était la page d'achevée d'imprimer. Je me suis dit, bon, c'est la dernière page, on peut peut-être. Et on a reproduit la photo de Charlotte Salomon, une des toutes dernières, où elle est voilà, en plein air dans la Provence et elle vous regarde. Ben, regardez cette photo, je vous assure, c'est pas le regard d'une femme apeurée. C'est pas du tout le regard d'une femme apeurée.
Alors ensuite, il y a l'histoire de l'œuvre elle-même, après le départ de Charlotte Salomon, qui est aussi une histoire très intéressante, puisque ces gouaches vont être sauvées par un ami, par un médecin, il me semble.
Alors en fait, Charlotte Salomon était enceinte hein, quand elle a été déportée. Elle était enceinte de 5 mois, donc elle était suivie par un médecin qui a eu un rôle assez majeur parce que c'était le même médecin qui l'avait suivie quand elle a eu son épisode dépressif au début de son séjour à Villefranche-sur-Mer, donc tout près de Nice, et qui lui a dit « mais peins, pour que ça aille mieux, peins ». Donc il est sans doute un des points de départ de l'œuvre, avec l'amant et puis la protectrice. Et là, on arrive à la chaîne de transmission de l'œuvre. C'est que ce médecin, un jour, a vu arriver Charlotte Salomon, quelques mois donc avant sa déportation. Et la légende rapporte, et elle est sans doute vraie, elle lui aurait dit prenez ceci et toute ma vie. Et il y avait 5 boîtes qui contenaient la totalité des gouaches, les 800 qui sont là, plus toutes celles qu'elle avait.
À quel moment elle lui donne, elle lui laisse
Ça devait être aussi durant l'été à peu près.
Dans l'été. Voilà. Alors oui, la protectrice, et en fait, il faut en parler aussi.
Donc le médecin va garder cette œuvre jusqu'à la fin de la guerre. L'américaine qui avait hébergé la famille Salomon pendant la guerre dans sa villa, c'était en fait une milliardaire américaine qui avait une grande propriété qui s'appelait l'Ermitage.
Elle s'appelait Otilimour.
Donc c'était pas Fry, elle avait pas mis en place un réseau de survie et d'évacuation de tous les juifs du sud-est de la France, mais elle avait fait ce qu'elle avait pu, elle avait hébergé une quinzaine de juifs dans sa villa, et quand elle-même était repartie aux États-Unis en 1942, elle avait amené une dizaine d'enfants et elle avait laissé la villa à Charlotte et à Nagler, son ami.
Cette villa se trouvait à Villefranche ou à Saint-Jean-Cap-Ferrat?
Villefranche sur mer.
Villefranche.
Oui. Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc c'est aussi tout proche, on est dans un rayon de 5 km. C'est là où elle a peint une partie de l'œuvre, parce que ne supportant pas son grand-père, à un moment, elle ne pouvait plus cohabiter avec lui, donc elle s'est réfugiée dans un hôtel-pension où elle a peint une grande partie des gouaches. Bref, Otilimour revient à l'Ermitage après-guerre. Là, le médecin, qui était sans doute son amant, lui a dit « voilà ce qu'elle a laissé ». Et c'est beau. Pourquoi je dis que c'était sans doute son amant, c'est qu'on sent quand même que tous ces gens ont pris des risques. Il faut souligner que ce médecin a soigné aussi tous ces enfants juifs qui étaient protégés par Otilimour. Donc on avait affaire à des vrais humanistes. Et ils se sont transmis l'œuvre. Et donc Otilimour l'a préservée à son tour. Et quand parmi le père et la belle-mère de Charlotte Salomon sont retournés à Nice en 1947 pour trouver des traces de leur fille, eh bien Otilimour leur a rendu l'œuvre en disant « voilà ce que votre fille a laissé ». Ils sont repartis avec Amsterdam. Puisque pendant la guerre, ils étaient cachés aux Pays-Bas et ils sont établis à Amsterdam en 1945. Ils ont gardé ça dans un grenier, plus ou moins. Sauf que le père d'Anne Frank a été un des tout premiers à voir l'œuvre. Donc voilà, il y avait des parties de thé où parfois on ouvrait les boîtes, on disait voilà ce qu'on laissait nos filles. Enfin, on peut imaginer de manière assez incroyable les échanges qui ont eu lieu à cette époque. Mais voilà, ça gardait principalement le statut de document. Voilà ce que cette femme a laissé avant de mourir. À tel point que finalement, l'œuvre a été remise au musée d'histoire du judaïsme à Amsterdam en 71. Et ça a été la chance de cette œuvre. C'est qu'elle est tombée dans un lieu où les gouaches ont été merveilleusement préservées dans leur totalité. Donc elles n'ont pas été dispersées, vendues par-ci, par-là, ou même données. Enfin, peu importe, c'était pas une histoire... Il y a eu quand même la conscience qu'il fallait préserver l'intégralité, l'intégrité de l'œuvre. Et donc ce musée a tout numérisé, a tout photographié d'abord, a mis ça dans des conditions d'hydrométrie et de lumière optimales, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, quand on voit les gouaches dans les réserves, on a l'impression qu'elles ont été peintes la
veille.
Elles
sont toujours là-bas.
Elles sont toujours là-bas et elles sont merveilleusement préservées. Parce qu'après avoir fait ce travail-là, ils ont fait un travail de documentation, donc toutes les musiques, je vous disais avoir écouté, c'est grâce à eux, parce qu'en fait, il suffit d'aller sur leur site. Et pour chaque gouache, vous avez des documents qui peuvent expliquer l'influence ou des photos pour montrer. Parce que comme on voit tous les personnages de sa vie peints, eh bien, on peut voir des photos qui mettent en relation et on peut écouter les musiques. Voilà.
Par exemple, il y a plusieurs reprises, Du bist mein Dir, qui fait partie du petit livre d'Anna Magdalena Bach. Et c'est à plusieurs, qui est une mélodie magnifique d'ailleurs, qui a été composée par Jean-Sébastien donc pour sa seconde épouse. Et cette mélodie apparaît à plusieurs reprises, écrite.
Il faut comprendre qu'elle a grandi. Donc, alors, j'ai plus la date exacte en tête, mais elle a vu arriver Paola Salomon, enfin sa belle-mère, dans la famille quand elle avait à peu près 12-14 ans, je crois. Et à partir de ce moment-là, elle a baigné dans la musique tout le temps parce que sa belle-mère était vraiment une grande chanteuse d'opéra de l'époque qui faisait non seulement des tournées en Allemagne mais même en Europe, et c'était notamment une spécialiste de Bach.
D'accord. Et alors ensuite, il y a toute l'histoire de l'édition justement.
Il faut rendre hommage à un jeune homme qui s'appelle Jonathan Wable, dont j'avais publié le premier roman en 2012, qui est un garçon d'une humilité et en même temps d'une curiosité dingue. Donc, il a une culture cinématographique qui est supérieure à celle de nous tous réunis dans cette salle. Sans aucune hésitation, je l'affirme, même s'il y a Jacques Abeille dans la salle, qui regarde beaucoup de films, mais pas autant que Jonathan Wable. C'est quelqu'un qui avait fait les Beaux-Arts Et donc, il y a une formation artistique très poussée. Il dessine aujourd'hui encore. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a une culture littéraire assez phénoménale aussi, avec des programmes de lecture sur plusieurs années quasiment. Bon, je suis marseillais, j'exagère peut-être un peu, mais vraiment un très grand lecteur. Et qui un jour me dit, mais moi je l'ai pris presque comme une plaisanterie, parce qu'il est taquin parfois, mais après coup il m'a dit non, je ne plaisantais pas. Il me dit, voilà, une des œuvres les plus importantes pour moi, c'est ça. Et à l'époque, rien n'existait. Il n'y avait plus aucun presse, qui restait un petit stock en Allemagne, je crois, d'un catalogue d'expo, mais sinon, l'œuvre n'était disponible nulle part si vous vouliez la consulter. Puisqu'en plus, le musée d'Amsterdam est trop petit, donc, et puis aussi pour des raisons de préservation, ils montrent très rarement les gouaches. Donc, je vois ça sur Internet, je dis, wow, ça a l'air assez étonnant, mais je ne vois pas encore l'ampleur de l'œuvre, puisque d'abord sur un site, vous tournez, et puis vous voyez que vous avancez, ça ne s'arrête pas, mais vous ne mesurez pas d'emblée la quantité. Et puis par ailleurs, c'était présenté de façon documentaire. Et c'est que très progressivement, en ayant retrouvé un catalogue d'exposition fait par le musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2006, que je m'aperçois qu'on a
une... Il y a eu déjà plusieurs expositions.
Oui, elle avait l'œuvre dès les années 70, en fait, à partir du moment où elle est arrivée dans un musée, il y a eu ce devoir de mémoire et d'hommage à Charlotte Salomon qui a toujours existé maintenant, ce ne sont pas les mêmes personnes du musée que ceux des années 70, mais il y a eu une transmission et tout le monde avait conscience que c'était important. Après, ils le faisaient avec les moyens du bord et leur culture. Donc, ça circulait essentiellement dans des musées, dans des centres culturels, à Yad Vashem. Mais personne, et c'est là où ça devient drôle, parce que vous avez l'impression d'une évidence et vous dites, vous avez juste la chance d'être là au bon moment et d'être de la bonne génération. C'est-à-dire que l'évidence, c'est qu'en fait, elle avait fait un livre et que depuis 40 ans, les gens s'embêtaient à en faire une exposition. Mais essayer de lire un roman de 800 pages avec 800 gouaches debout, c'est impossible. Et donc finalement, personne n'avait jamais vu l'œuvre. Et c'était amusant parce que la première fois où je vais voir donc le directeur du musée en lui disant « je veux faire une édition de Vie ou Théâtre », son premier réflexe, et c'était révélateur, était de me dire « ah mais vous n'allez pas le vendre, il n'y a pas d'exposition de prévu ». Et je lui ai répondu, mais du tac au tac, mais c'est super, parce que je vais justement pouvoir montrer que ce n'est pas un catalogue d'exposition Charlotte Salomon, mais un roman. Et voilà, et l'histoire a commencé comme ça, c'était 2012. Après, il a fallu beaucoup de temps de pédagogie, parce que le choc des cultures était quand même assez fort. En souriant, je crois que maintenant je peux dire, ça devait être quand même assez stupéfiant pour eux qu'un goy de 35 ans, avec sa petite maison d'édition qui risquait... pour faire ce livre, c'est grosso modo deux fois le capital de la société. Voilà, hein, pour être concret. Donc il y avait quelque chose d'un peu pari fou. Et en même temps, non. Je vous assure, il y a des choses beaucoup plus dangereuses à faire en termes financiers que ce livre-là. Pour moi, c'était évident que les risques étaient minimes. Mais c'est vrai qu'on était à des années-lumière de tout ce qu'ils avaient pratiqué depuis 40 ans, y compris dans le discours. Et moi, ma plus belle récompense, c'est que j'avais organisé une conférence de presse dès que le livre était disponible. Donc j'avais fait venir des premiers exemplaires par avion d'Italie, puisqu'il a été imprimé en Italie. Et j'avais convoqué la conférence à la date où je savais que les livres seraient arrivés, la veille. Je m'étais donné un jour de sécurité quand même. Mais de fait, les gens du musée ont découvert le livre sous mes yeux, puisque je les avais conviés évidemment à cette conférence de presse. Et il était absurde d'envoyer un deuxième avion à Amsterdam pour livrer des livres, tandis qu'il serait à Paris. Donc on avait convenu qu'ils découvriraient le livre. Et j'ai vu le silence. Véritablement, pour la première fois, vous voyez un silence, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît parfaitement l'œuvre, qui depuis des années fait des cartons pour l'envoyer en Israël ou en Australie, enfin partout dans le monde, Batia Wolf notamment, donc, qui est la grande spécialiste au musée. Voilà. Il y a un moment où elle n'a plus rien dit. Et elle me dit, après un silence, cette phrase merveilleuse, « j'ai l'impression de redécouvrir Charlotte Salomon ». Et là, vous avez un grand bond intérieur, vous restez très digne en disant « merci Mathia », et en fait, vous hurlez à l'intérieur en disant « ok, c'est réussi ».
Oui, c'est un livre extraordinaire, vraiment. C'est... Parce qu'effectivement, c'est un livre dont on tourne les pages une à une et qui se lit comme ça dans la suite, à la suite.
Mais ça, c'est dû à l'intégrisme vraiment français, pour le coup, éditorial sur le livre. Et je pense qu'il faut jeter la pierre à Gallimard et Minuit, c'est qu'en France, on a l'impression que le texte, la couverture, voilà, c'est du sacré. Et par exemple, tout éditeur qui se crée en France, de littérature en tout cas, je vous fais le pari que 999 fois sur 1000, sa première préoccupation, ce n'est pas de se dire quel est le premier texte que je vais publier, c'est quelle va être ma maquette. Je crée ma maquette, je deviens éditeur dans la lignée de... Voilà. Et moi, je n'ai pas du tout cette culture-là. C'est-à-dire, je suis convaincu que la singularité d'un livre doit décider de sa forme. Que la forme d'un livre est déjà un discours sur le livre et qu'il faut y être très vigilant. Et que de normaliser la forme d'un texte à d'autres textes qui n'ont rien à voir, c'est un discours qui, pour moi, est dangereux. Et donc, sur Charlotte Salomon, il fallait vraiment se poser la question de comment donner la forme la plus juste, mais pas par rapport à des envies particulières, par rapport à ce qu'elle nous a donné.
Mais vous avez magnifiquement réussi.
Mais après, ça passe par des choses toutes bêtes. Je vais vous donner un cas très concret qui a fait rire après, a posteriori, la graphiste, parce qu'elle n'y avait pas pensé, et je crois qu'elle s'en est un peu voulu. C'est où placer le texte ? Il y a quand même vraiment beaucoup de textes. Et spontanément, elle l'avait mis en bas de page. Ce qui présentait, pour moi, immédiatement, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Ça présentait deux problèmes. Le premier, c'est que le bas de page, ça fait légende. C'est-à-dire que d'emblée, le discours qu'on offrait au lecteur, c'est « voici un beau livre, monographie d'artiste ». Je ne voulais pas du tout ça. Et le deuxième problème était beaucoup plus insidieux et elle n'y avait pas pensé. C'est que quand vous calez un texte sur le bas de la page... Bah, c'est un peu, vous savez, comme quand vous écoutez la radio, il y a des, selon la hauteur de son, le bloc monte plus ou moins haut. Ce qui fait que quand vous commencez jamais à lire un texte par le bas, vous commencez par la première phrase, en toute logique, ce qui fait que votre point de lecture d'une page à l'autre, votre point de départ de lecture, change tout le temps. Ce qui n'est pas du tout votre expérience d'un roman. Quand vous tournez la page d'un roman, quelle que soit la maquette qui a été mise en place par l'éditeur, sauf folie, façon Club français du livre très dégénéré, vous allez obligatoirement au même endroit de la page avant même de lire le premier mot. Et là, vous savez que vous êtes dans le roman. Et donc, tout de suite, la première décision importante qu'on a prise sur cette maquette de livre, c'est de dire le texte doit commencer au même endroit dans toutes les pages. Voilà. Et de fait, la lecture est complètement différente. On a maintenant des... parce que j'ai fait beaucoup de rencontres autour du livre. On a des lecteurs. Il y a eu notamment une rencontre, c'était très marrant, parce qu'il y avait les lecteurs qui étaient pour la lecture d'abord du texte, et ensuite on revient en arrière, on regarde les gouaches. Et les lecteurs qui étaient pour la lecture des gouaches d'abord, et ensuite on revient en arrière, on lit le texte. Moi, je suis plutôt le texte d'abord et après les gouaches. Avec un système de va-et-vient, parce qu'effectivement, on lit 15-20 pages, et puis on revient en arrière. Parce que le texte, en tout cas, est si prenant, et ça, c'est aussi quelque chose qui est apparu pendant les rencontres, que certains ont oublié de regarder les peintures. Et là aussi, je trouve que c'est un compliment magnifique fait à cette femme, parce que c'est évident que les gouaches sont somptueuses et vous giclent à la figure à n'importe quelle page que vous ouvrez. Mais c'est une écrivaine aussi. Et un détail tout bête, les premières gouaches, elle écrivait son texte sur des calques qu'elle juxtaposait aux gouaches. Elle mettait, on voit même les petits bouts de scotch qu'elle a posés pour maintenir le calque. Et elle écrivait les textes dessus. Et bien, c'est la première fois au monde qu'on a reproduit les calques, que les calques étaient reproduits. Parce que jusqu'à présent, les personnes qui s'étaient intéressées à l'œuvre et en avait fait donc des catalogues d'exposition, trouvait que le texte, bon d'accord, elle est gentille, mais c'est avant tout une peintre. Voilà. Et c'est un contresens, parce que qu'on aime ou pas son écriture, il y a parfois des flots de verbes, de mots qui peuvent être éprouvants à lire, notamment quand elle met en scène d'Aberlon, qui est un théoricien de l'art, qui, mon Dieu, qu'est-ce qu'il radote, c'est horrible. Orphée, on a compris, quoi, ça va. Mais bon, elle a besoin de retranscrire tout ça. Et c'est partie intégrante. C'est-à-dire que si on fait l'impasse sur ça, on fait l'impasse sur l'œuvre. On en fait une mignardise presque. Oh, les jolies gouaches. Et de fait, très souvent, les catalogues d'exposition, pour des raisons de taille aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mille solutions. Si vous voulez reproduire correctement les gouaches, il faut les reproduire quasiment au format, et donc en pleine page. Donc il faut faire 800 pages. Et la plupart des catalogues faisaient plutôt... celui de Beaubourg faisait 60 pages. Et celui du Musée d'art et d'histoire du judaïsme en faisait 450. Donc, ils ont compressé. Et en gros, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Bah, les gouaches qu'ils trouvaient assez belles, ils les mettaient en plein de pages. Et puis, comme il fallait quand même tasser le reste, vous vous retrouviez avec une page où il y avait 8 reproductions. Et là, vous trahissez vraiment le... Enfin, vous trahissez. Non, vous faites ce que vous pouvez, mais vous n'êtes plus dans l'œuvre qu'a voulu Charlotte Salomon. Où on est dans un... C'est comme si dans un roman, l'éditeur décidait que oh, les passages beaux, je vais les mettre en caractère 14, et puis les passages qui sont moins bons, on va mettre ça en caractère 10. Voilà, on tasse, quoi, et on oublie. C'est pas possible. Quand on publie une œuvre, on la publie comme l'auteur l'a voulu.
Tous ces éléments sont passionnants. Pour ce qui me concerne, avant de venir, j'ai passé 2 heures à lire d'abord. Effectivement, c'est le texte que j'ai lu. Et ensuite, je regardais. Et bon, effectivement, j'étais toujours happé aussi par l'image, par la richesse de l'image. Mais c'est le texte que je suivais, effectivement.
Je pense, je me suis jamais amusé à chronométrer. Mais si on veut vraiment prendre le temps de lire le texte et de goûter les gouaches, on ne peut pas les intégrer, mais il faut au moins une trentaine d'heures, à minima. Ce qui me permet d'ailleurs d'annoncer que le livre est un peu cher, évidemment, mais vu le poids déjà, le prix au poids est très bas.
Combien pèse-t-il ?
4,6 kg. Voilà. Mais quand vous le ramenez au temps de lecture, c'est la moitié du prix d'un poche. C'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment d'infini en termes de... Moi, il y a, très honnêtement, j'ai travaillé donc sur l'œuvre essentiellement dans ma tête ou à partir des catalogues d'exposition. Donc, quand le livre est arrivé, je l'avais déjà beaucoup fréquenté. J'ai pu le lire que 2 fois dans l'édition. Et j'ai hâte d'avoir mes prochaines vacances pour vraiment prendre le temps de le lire dans cette édition-là. Parce que ça n'a rien à voir. Voilà, à chaque fois que j'ouvre une page et que je me dis, bon, allez, là, tu regardes juste cette page, bah, vous découvrez des choses. Des densités, des ombres portées, des folies. Vous dites, mais comment elle fait ça là? Très récemment, par exemple, elle est très influencée par le langage du cinéma. Elle en parle très peu. Il y a juste un indice qui est donné dans la lettre finale. Je me dis, zut, c'est dommage que je ne l'ai pas vu plus tôt, mais je suis quasiment sûr maintenant que la principale influence, c'est finalement le cinéma, dans ses méthodes narrative, dans ces techniques. Et il y a notamment une bascule incroyable vers la page 359. Si je me souviens bien, c'est à 3 ou 4 pages près, avant ou après, où elle met en scène la véritable première rencontre avec Daberlon, donc son amant, qui est, encore une fois, le fil rouge de tout le livre.
Et l'interlocuteur principal, en définitive. Ouais.
Et c'est fantastique ce qu'elle fait, parce que c'est un repas de Noël où, en fait, Daberlon est invité avec sa fiancée dans la demeure familiale. Donc, se retrouve là, Daberlon qui trône au milieu de la... Donc, il a la place d'honneur. À sa droite se trouve le père de Charlotte. À sa gauche se trouve la belle-mère. Ici se trouve, à la droite du père se trouve la fiancée, et en face de la fiancée se trouve Charlotte Salomon. Et donc on a une première gouache où on voit Daberlon de face, donc en plongée, c'est la scène quasiment, et tous les gens qui l'entourent et qui l'écoutent, parce que bien sûr, comme d'habitude, c'est lui qui parle. Et c'est le début d'un chapitre, donc ça s'intitule « À Noël !» point d'exclamation. Et vous tournez la page, et je suis content que le hasard ait voulu que cette planche-là commence en belle page, parce que du coup, vous devez tourner la page pour avoir le choc suivant. Et là, elle vous fait un contre-champ, où on voit cette fois-ci Daberlon de dos, et tous les autres personnages, en termes de technique picturale, on n'est plus du tout dans la même gouache. Tous les personnages deviennent quasiment des apparences. Il y a juste un trait pour les dessiner. Et comme par hasard, c'est vraiment la première rencontre véritable entre elle et Daberlon. Et vous tournez encore la page, et là, vous voyez une gouache où ils sont tous les deux allongés et en train de faire une partie de dés. Voilà. Et ça, quand vous essayez de vous replonger dans l'état dans lequel elle était pour créer ça, avec cette malice, parce que là, il y a quand même du génie narratif, vous avez déjà un petit bonheur dans la journée. Et des pages comme ça, des découvertes que vous faites progressivement, des bleus qui sont stupéfiants, il y en a des milliers, j'en suis sûr. Pour moi, il est un peu inépuisable. Je pense que dans 50 ans, je me dirais, oh tiens, cet été, je vais me le relire.
Oui, absolument, c'est évident. Hein. C'est déjà rien que moi, j'ai passé 2 heures surtout à le lire, donc, hein, et pas tellement à regarder, à défricher les images qui sont elles-mêmes très riches, hein, mais qui vous sautent aux yeux, qui sont. Qui ont une force aussi extraordinaire. Hein. Non, c'est vraiment un travail que vous avez réalisé extraordinaire.
Alors là, il faut rendre hommage à deux femmes. Donc la maquettiste, la graphiste qui s'appelle Margaret Gray, qui est quand même la directrice de la section typo de l'école Estienne. Donc c'est vraiment une très très grande en Europe. Elle est américaine en fait d'origine. Mais je crois que c'est la première fois d'ailleurs que l'école Estienne a donné à un professeur étranger la responsabilité de la direction de sa section la plus prestigieuse, donc la section typo. Et puis Margherita Mariano, donc il y avait beaucoup de Margaret dans l'affaire, qui a été la responsable de fabrication et qui est celle qui m'a donné les réponses techniques aux problèmes que je me posais. Donc je voulais un papier qui ne soit pas glacé. Donc le papier glacé, c'est ce qu'on utilise en général dans le beau livre. C'est des papiers qui sont surfacés, donc c'est une couche minérale. Concrètement, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont glacés, parce que c'est de la pierre, c'est plus du végétal, c'est plus du bois. Et je ne voulais pas, par rapport à une œuvre pareille, qu'on ait ce rendu-là. Il fallait que ça soit beaucoup plus chaud. Et puis d'ailleurs, même dans le ressenti, quand vous lisez un roman, c'est toujours imprimé sur des papiers qui ne sont pas glacés, justement. Donc il fallait ça, et ça complique énormément, parce qu'en fait, le problème d'un papier donc, qui n'est pas glacé, c'est que c'est un peu du buvard. Donc l'encre diffuse. Et là, il fallait quelqu'un qui soit très très fort pour travailler les fichiers numériques, les calibrer en termes de chromogravure, pour que ça soit très très bon et que ça tienne à l'impression. Voilà. Et ça, c'est le travail de Margherita Mariano. Et pour le coup, je pense qu'elle est adulée par le musée d'art et d'histoire, le musée du judaïsme d'Amsterdam, parce qu'il n'avait jamais vu les images reproduites comme ça.
Quels sont vos projets suivants, alors, si vous êtes comme ça doué pour de si beaux livres?
Je reviens le mois prochain. Mola est vraiment une librairie fantastique, et je le dis. Bon, s'il y a quand même quelqu'un de la librairie, donc tant pis, mais je le dis entre nous, mais. Voilà, c'est une librairie où il y a beaucoup de travail en amont et en aval des livres pour les faire vivre. Et en fait, ils mettent un peu à l'honneur la maison d'édition le mois prochain. Donc, ils m'invitent avec deux auteurs très étonnants. Marie Redonnet, qui était un auteur publié par les éditions de Minuit dans les années 80-90. Donc, moi, je me souviens, je la lisais étudiant et je cherchais ses livres d'occasion. Et en fait, elle était très peu lue. Donc, les bouquinistes me riaient au nez en disant que je cherchais le mouton à cinq pattes. Je me retrouve 20 ans plus tard à la publier, ce qui est voilà, très. C'est quelque chose. Et un premier roman incroyable qui s'appelle Notre Château, si vous aimez vous faire un peu peur. Voilà, on est dans du Kubrick, on est dans la maison des feuilles de Danielewski. Enfin, c'est l'histoire d'un couple, d'un frère et d'une sœur qui vivent ensemble, plus ou moins cloîtrés dans leur maison. Une demeure familiale dont ils ont hérité, qu'ils appellent Notre Château. La seule exception à l'enfermement est que chaque jeudi, le frère va au centre-ville pour acheter un livre en librairie, enfin des livres en librairie, il refait les stocks. Et un jeudi, il est dans la rue et il voit passer un bus, et dans ce bus, il y a sa sœur. Et il dit, c'est impossible, ma sœur ne prend jamais le bus. Et c'est le début du roman. Voilà. Donc on vient avec ces deux auteurs. Après, il faut quand même le signaler. Donc 2016 sera une année Jacques Abeille, où on va pour la première fois réunir l'ensemble du cycle des contrées. Je suis un peu gêné d'en parler puisque l'auteur est dans la salle, mais on publie 6 livres, voilà, deux ou autour de Jacques Abeille l'année prochaine, ce qui, à mon avis, dans l'édition, s'est jamais fait sur un seul auteur. Ce qui voilà, prouve un peu l'amour qu'on a pour cette œuvre. Et après, si je devais mettre en avant encore une chose, il y a un miracle qui arrive en septembre. Hein. Un jour, je reçois un mail écrit comme je me représente la lettre que pourrait écrire un Sénégalais de 80 ans au fin fond d'un village, donc avec des formules de politesse qu'on n'utilise plus en France depuis, on va dire, la Commune. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le garçon se présente comme ayant 27 ans et vivant aux Comores. Et donc, il y a un fichier joint pour son roman qu'il a écrit 3 ans plus tôt, donc à 24 ans. Donc, je me dis, bon, d'accord, je vais lire une rédaction de texte, Victor Hugo, niveau collège, ou peut-être lycée. Et j'ai pris la plus belle baffe de ma vie. Voilà. un premier roman avec un culot de quelqu'un, bah, un peu en roue libre aussi. Ça, je pense que ce garçon, comme une tectonique des plaques, est parti sur un continent, donc ce n'est pas l'Australie, mais qui a développé son biotope au niveau de la langue française. C'est les Comores, mais ce n'est pas Mayotte, hein, c'est les îles indépendantes. Donc lui, il vient de l'île d'Anjouan, de Moussa Moudou. Fils d'une femme de ménage et d'un instit, à cheval sur trois langues, entre l'arabe, le comorien et le français. Et je ne sais toujours pas comment il a fait pour écrire un roman pareil. Ça s'appelle Anguille sous roche. Alors, vous pouvez piquer à la librairie, j'ai apporté des catalogues de la maison d'édition. Il y a une présentation de ce livre faite par un critique littéraire que je connaissais bien. Je lui ai dit, tiens, lis-moi ça, comme ça je te dis rien. Et boum, 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 voilà. Et il a fait un texte qui dira mieux que moi.
Et est-ce que chacun de ces livres va avoir une forme particulière?
Ben évidemment, oui. On va réfléchir à ce qu'il a et on va essayer de le matérialiser. C'est ça l'idée, c'est qu'on ne fait pas des beaux livres, on essaie de faire des livres justes.
Ah, c'est une magnifique formule.
Bon, ben.
Et merci alors.
Merci, ben merci à vous.